Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Nos trois experts ce matin en plateau, Dorothée Rouzet, chef économiste à la Direction Générale du Trésor, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Philippe Aguillon, professeur au Collège de France, membre du Cercle des économistes, co-auteur du livre Le pouvoir de la destruction créatrice aux éditions Odile Jacob, et Gilles Berset, professeur d'économie à la Neoma Business School, auteur de Travailleurs mais pauvres, inégalités et lutte contre la pauvreté laborieuse aux éditions De Boeck Supérieur. Bonjour à tous.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. On va évidemment commencer avec cette idée du European Act, Buy European Act. Une nouvelle fois hier, Bruno Le Maire a tenté de convaincre ses homologues européens. Il l'a expliqué très clairement. Les Américains le font, les Chinois également. L'Europe aurait tort de ne pas le faire. Dorothée, est-ce que l'Europe, c'est ce que disait Hubert Védrine il y a quelque temps, a essayé d'être le premier de la classe, on finit par être l'idiot du village?
Bon, je pense que, enfin, le fait que l'Europe se soit appuyée sur un modèle qui reste ouvert et respectueux des règles internationales, je pense que c'est une bonne chose et ça nous a bénéficié. Enfin, on est aussi le continent qui est le plus ouvert aux échanges, qui exporte le plus. Donc, je pense qu'il faut pas, voilà, il faut pas voir ça comme
une
faiblesse ou une naïveté de l'Europe. Après, ce qu'il faut voir sur ces sujets, enfin, le sujet du Buy European Act, en un sens, ça fait longtemps qu'il est un peu dans l'air. Il y a des grosses divergences entre européens sur le sujet. Et effectivement, la question, c'est un peu celle de l'équilibre des relations, puisque les marchés publics européens sont ouverts, les marchés publics américains ou chinois sont fermés aux entreprises européennes. Donc, je dirais, l'idéal, ça aurait été que tout le monde puisse avoir accès de manière un peu ouverte. Bon, on n'est pas prêt de négocier ce genre de choses avec les États-Unis ou avec la Chine. Donc, du coup, la question se pose de la réciprocité. Sachant que, oui, certains pays comme l'Allemagne auraient peur de mesures de rétorsion. Ils ont probablement pas tort, hein, puisque la Chine a montré récemment sur le sujet des véhicules électriques, notamment, qu'elle était capable aussi de trouver des mesures de rétorsion là où ça fait mal. Donc,
et viser notre cognac.
En visant en particulier le cognac français. Donc c'est possible, mais en même temps, il s'agit de pays qui font déjà ce dont on parle. Ensuite, sur le fond, la question qui se pose, c'est un peu celle de l'équilibre. C'est-à-dire que forcément, si on ajoute plus de critères, des critères de contenu local, etc., dans les marchés publics, ça va coûter plus cher. Donc ça va coûter plus cher aux donneurs d'ordre, ça va coûter plus cher à la puissance publique. Et en face de ça, pour avoir peut-être plus de soutien à notre industrie, plus de critères environnementaux, etc. Donc il faut se poser la question de cet équilibre. Et je pense qu'il faut aussi dire qu'il y a eu des avancées assez récemment sur le sujet, au niveau européen comme français, pas sur des clauses protectionnistes, mais sur le fait d'intégrer des considérations qui ne sont pas que le prix dans les marchés publics. Donc c'est quelque chose qui est renforcé dans la réponse européenne à l'Inflation Reduction Act en mettant un seuil de 30% de marchés publics qui doit avoir des critères autres que le prix, qui peuvent être la durabilité, la contribution à l'innovation, etc. Enfin, des critères environnementaux notamment. En France, on a commencé à le faire. Et en fait, ces critères environnementaux, ça permet aussi, sans aller vers du protectionnisme pur et dur, de privilégier des produits qui sont plus respectueux de l'environnement, qui n'ont pas forcément été produits avec de l'électricité au charbon ou traversé toute la planète.
Philippe Aguillon, est-ce qu'il n'y a quand même pas une forme de naïveté dans ce débat de la part des Européens ?
Je partage beaucoup de très largement ce que dit Dorothée. Je voudrais simplement dire que, effectivement, face à des États-Unis et la Chine qui ont des vraies politiques industrielles qui sont très, très assertives, il faut que l'Europe le soit également. Ça, c'est clair. Maintenant, il faut faire très attention que le meilleur garantie d'être compétitif, c'est l'innovation. Et le problème, c'est que nous pêchons par manque d'innovation. Il y a les États-Unis et la Chine innovent beaucoup, et nous sommes moins innovants. Et nous sommes beaucoup moins innovants, et je le dirai peut-être tout à l'heure quand on parlera de politique d'innovation en Europe, dans les high-tech. Voilà, on s'est beaucoup concentré sur des entreprises traditionnelles, sur des secteurs mid-tech. on est, alors que les États-Unis et maintenant la Chine vont très sur le high-tech. Et donc je crois que c'est très important, l'innovation est la meilleure garantie de marchés mondiaux. Alors je pense qu'il ne faut pas être naïf, et effectivement face à des gens qui ont des comportements un peu protectionnistes, on ne peut pas être naïf et dire nous on ne le fait pas, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il ne faut rien faire qui puisse nuire à l'innovation. Si on est trop protectionniste, on se ferme les marchés à l'innovation, et donc on devient moins innovant, et donc on finit par être moins compétitif. Donc il faut faire très attention quand on va dans la direction protectionniste de le faire intelligemment sur certains secteurs et pas d'une manière qui pose problème pour notre innovation à nous et qui donc fait qu'à long terme nous serons encore moins compétitifs que nous le sommes aujourd'hui.
Gilles Berset, est-ce que la France a raison de procéder de manière peut-être un peu hypocrite comme on l'a fait avec les voitures électriques chinoises en se cachant derrière des arguments de transition écologique plutôt que d'assumer une certaine forme de protectionnisme?
Je pense que la France a raison, parce que utiliser d'autres moyens serait s'exposer évidemment à des mesures de rétorsion encore plus fortes, et puis à des contentieux devant l'OMC par exemple, devant des institutions qui sont censées garantir justement le libre-échange. Je voudrais quand même souligner deux choses. D'abord que l'IRA, l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, est quand même une intervention massive et très protectionniste aux États-Unis. C'est un point quand même qu'il faut souligner. Protectionniste d'ailleurs, pas par rapport à des entreprises américaines, mais par rapport à des entreprises domiciliées aux États-Unis, par rapport à une production domiciliée aux États-Unis. Et ça aboutit à quoi ? Ça aboutit chez beaucoup de producteurs européens à une délocalisation d'une partie de leur production sur le continent américain, de la même façon que des producteurs japonais, des producteurs taïwanais de microprocesseurs envisagent de créer des établissements, d'ouvrir des entreprises aux États-Unis pour bénéficier de l'IRA américain. Donc c'est quand même une politique très très forte, très active, avec des moyens colossaux, y compris d'ailleurs dans l'innovation, dans les microprocesseurs. 200 milliards de dollars à terme concernant les seuls microprocesseurs. Enfin, c'est des sommes hallucinantes, hors de proportion par rapport à tout ce qu'on peut faire en Europe. Donc, il ne faut pas être naïf sur ce point-là. Néanmoins, sur le long terme, Dorothée l'a rappelé, qui paiera ce renfermement protectionniste qui commence à se généraliser sur les différents continents? C'est le consommateur. C'est le consommateur, voilà, il faut le dire clairement. C'est le consommateur qui paiera le fait que une libre concurrence généralisée n'aboutit pas, évidemment, au meilleur choix en termes de prix pour les composants des différents biens et qu'on peut produire sur le continent européen.
On a souvent préféré le produit le moins cher. On est un petit peu arrivé au bout de cette démarche.
C'est la qualité qui compte aussi. C'est le rapport qualité-prix qui compte.
Évidemment.
On veut surtout, c'est par la qualité. C'est pas juste réduire les coûts, c'est améliorer la qualité. Mais vous voyez, c'est intéressant, parce que tu parlais de l'exemple IRA. Il y a des aspects protectionnistes, donc il faut y répondre.
Absolument.
Mais en même temps, il y a l'aspect innovation.
Absolument.
Et donc, juste dire buy a European Act sans avoir une politique d'innovation qui réponde à celle de l'IRA, à mon avis, c'est mauvais.
Il faut que ce soit annoncé,
et c'est là que c'est le bas blesse. Pour le moment, il n'y a pas une politique européenne sérieuse d'innovation.
Donc c'est un peu court, selon vous, de dire les Américains le font, faisons la même chose, soyons protectionnistes.
Mais non, parce que les Américains, ils ont une stratégie quand même très basée sur l'innovation, que nous n'avons pas en Europe.
On va parler d'un autre sujet, parce qu'on va essayer de garder du temps pour parler de l'intelligence artificielle, c'est l'emploi des seniors. Nouveau round de discussion aujourd'hui pour les partenaires sociaux. On a un problème, Gilles Berset, c'est le taux d'emploi des plus de 60 ans en France. On est à la traîne, les choses se sont améliorées. Comment est-ce qu'on peut améliorer l'emploi des seniors ?
Oui, alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le taux d'emploi des 60-64 ans, qui sont évidemment au cœur de la cible des réformes des retraites précédentes, le taux d'emploi des 60-64 ans est de 36% en France, quand il est, par exemple, de 30 points au-dessus de cela dans un pays comme les Pays-Bas. La différence est absolument considérable, elle peut être liée évidemment à des éléments culturels, ça, on ne peut pas l'écarter complètement, mais elle est liée, on peut le penser aussi, surtout à des désincitations à l'offre de travail pour les seniors concernés. Ces désincitations sont multiples. Il y a non seulement l'âge de départ à la retraite, mais il y a aussi des dispositions concernant l'indemnisation chômage qui sont en discussion entre les partenaires sociaux, ce qu'on appelle de façon un petit peu large la filière senior, qui aboutit à des durées d'indemnisation plus longues, et qui peuvent être parfois beaucoup plus longues, puisque même un chômeur senior qui atteint l'âge de départ à la retraite, l'âge d'ouverture des droits pour la retraite, peut rester au chômage s'il n'a pas encore une retraite à taux plein, jusqu'à sa retraite à taux plein, bien au-delà de 62 ans et un trimestre maintenant. Donc, il y a vraiment une difficulté très très forte en France du côté de l'emploi des seniors, parce que il y a une multitude de dispositions désincitatives pour concernant l'emploi des seniors, quoi. Ouais. Entre autres dans l'indemnisation du chômage.
Ouais. Dorothée, est-ce qu'on paye pas aujourd'hui on fait pas les frais aujourd'hui de cette politique dont on a peut-être largement abusé dans les années 80-90, qui étaient les pré-retraites, c'est-à-dire que dès qu'on arrivait à l'âge de 55 ans, l'entreprise se débarrassait des seniors, et puis c'était l'assurance chômage qui payait.
Oui, en un sens. Alors, les pré-retraites, vraiment, ça a largement disparu. Maintenant, il y a aussi des pré-retraites un peu déguisées, effectivement payées par l'assurance chômage. On a vu, comme le disait Gilbert, je suis assez largement d'accord. En fait, le système donne quelque part le signal que, à partir d'un certain âge, c'est plus vraiment la peine de chercher du travail, qui est contradictoire avec ce qu'on cherche à faire par ailleurs sur le taux d'emploi. Donc là, il y a vraiment des choses à regarder. Et on a vu quelque chose qui est assez frappant, hein, c'est que le pic de séparation, à la fois licenciement, rupture conventionnelle. Donc avant la réforme des retraites de 2010, il était à 57 ans. C'est-à-dire qu'il y avait le plus de gens qui... Et pourquoi ? Parce qu'on a 3 ans d'indemnisation chômage et l'âge de la retraite était à 60 ans. Et puis c'est progressivement décalé de 2 ans avec l'âge de la retraite. Donc c'est bien qu'il y a quand même quelque part des comportements un peu stratégiques. Après, c'est une partie du problème. Donc il y a cette question un peu des incitations financières qui en fait n'incitent pas à l'emploi. Et il y a des questions qui sont plus du ressort aussi des partenaires sociaux, qui sont à la fois les conditions de travail, l'adaptation des postes de travail en fin de carrière, qui sont aussi des questions de formation, parce qu'on voit par exemple quelqu'un entre 55 et 60 ans se forme 2 fois moins que quelqu'un qui a 15 ans de moins. Or, pour ce public-là, pour les seniors, quand ils se forment, quand un chômeur senior se forme, c'est la classe d'âge pour laquelle on voit le plus d'effets sur l'emploi de la formation. Donc là aussi, il y a quelque chose. Et les freins à la formation qu'ils citent, souvent, c'est alors pour ceux qui sont en emploi beaucoup plus que les plus jeunes, que l'employeur refuse ou ne soutient pas, ou qu'ils n'ont pas trouvé la formation adaptée. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire de ce côté-là, à la fois d'avoir des formations qui sont adaptées et de s'assurer que les seniors, y compris ceux qui sont toujours en emploi mais qui pourraient risquer de le perdre, y ont bien accès.
Ouais. Philippe Aguillon, est-ce que ce n'est pas aussi un problème de perception des seniors en entreprise ? Dans les pays scandinaves, on arrive à faire cohabiter des seniors avec des jeunes pour transférer le savoir. Nous, on n'y est jamais arrivé.
Donc je partage largement ce qui a été dit, mais je ne crois pas que ce soit uniquement le fait qu'il faille durcir l'assurance chômage. Moi, j'aime beaucoup la loi Borne. Personnellement, elle me va très bien. Mais par exemple, j'ai l'exemple d'un collègue à moi, d'un jeune, dont le père, il y a eu une rupture conventionnelle et il a été mis donc au chômage à l'âge de 55 ans.
Ouais.
Et il a suivi exactement ce que Pôle emploi lui disait. Il a été d'un secteur à un autre, il a changé de secteur, il a essayé d'avoir un CDI, il a jamais réussi à l'avoir, quoi. Donc il y a vraiment une grosse responsabilité du côté des entreprises. Elles doivent former, elles doivent garder. Je sais que dans le rapport Blanchard-Tirole, toute la dernière partie du rapport est consacrée à toute série de mesures pour inciter les entreprises, parce que sinon on peut faire croire que c'est les chômeurs, que c'est les gens, que c'est les employés, que toute la faute repose sur eux. Moi, je crois que beaucoup repose sur les entreprises, qui ne se responsabilisent pas suffisamment de former les personnes et de leur permettre de rester plus longtemps. Donc je crois vraiment qu'il faut faire porter ça beaucoup sur les entreprises, en fait, ouais. Personnellement.
Est-ce qu'il faut le faire de manière contraignante ?
Je sais pas, incitative, alors je sais pas, il y avait des idées. Moi, je ne suis jamais pour forcer, mais je pense que l'incitation est de tous les côtés. Mais je pense que, j'ai des connaisseurs devant moi, mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses, et le rapport Blanchard-Tirole en proposait, pour inciter les entreprises à garder plus longtemps, à ne pas, à former, à permettre aux seniors de former des juniors, de récompenser des entreprises qui permettent à des personnes de rester plus longtemps.
Ouais. Gilbert Sept, une enquête a été publiée cette semaine. Il y a à peu près un tiers des jeunes qui n'aiment pas et ne veulent pas des seniors en entreprise. On a un vrai problème de perception, un vrai problème d'image avec les seniors en France.
Oui, alors, il faut interpréter la chose d'une façon nuancée. Je veux dire par là que des jeunes qui ont toujours vécu entre des jeunes pendant toute leur période scolaire, quand ils rentrent dans le monde du travail, évidemment, c'est un choc parce qu'ils se retrouvent avec des gens de toutes les générations, évidemment, dans le monde du travail. Donc, sur ce plan-là, il y a une question de perception, de rupture avec une période précédente. Je voudrais quand même ajouter deux choses à ce qui a été dit. Bon, d'abord, il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont une gestion active de leur pyramide des âges. J'ai eu beaucoup d'DRH de grandes entreprises, par exemple, il y a deux ans, qui, compte tenu des durées d'indemnisation plus longues, qui étaient à l'époque de 3 ans pour les personnes de plus de 55 ans, eh bien, avaient une gestion active. À 59 ans, faisaient une rupture conventionnelle d'un commun accord avec leurs salariés, qui étaient pendant 3 ans au chômage, jusqu'à aboutir à 62 ans, l'âge de départ à la retraite. Donc, effectivement, il peut y avoir d'un commun accord, en quelque sorte, une gestion très très active des avantages et inconvénients de durée d'indemnisation qui sont ce qu'elles sont. Donc il faut être attentif à ça. Il n'y a pas que les chômeurs, il y a aussi les entreprises qui ont cette gestion active. Ça c'est un premier point qu'il faut souligner. Un deuxième point qu'il faut souligner, c'est que la France est l'un des pays, sinon le pays dans lequel les durées d'indemnisation sont les plus longues. Même en les diminuant, comme ça a été fait récemment avec la contracyclicalité, et même si elles étaient diminuées, comme veut le faire Gabriel Attal, eh bien, nous resterons l'un des pays dans lequel les durées d'indemnisation sont les plus longues de tous les pays de l'OCDE, et l'un des pays dans lequel les conditions d'éligibilité pour bénéficier de l'indemnisation chômage sont les moins restrictives, les moins dures, en quelque sorte. Donc, faut quand même situer les choses à leur place. Les pays qui ont un très faible taux de chômage et un très fort taux d'emploi des seniors sont des pays dans lesquels aussi les durées d'indemnisation sont plus courtes et les conditions d'éligibilité à l'indemnisation chômage sont généralement plus dures que les nôtres.
Dorothée Rouzet, est-ce qu'il n'y a pas un risque de précarisation des seniors si on décale, comme on l'a fait, l'âge de départ à la retraite sans améliorer le taux d'emploi ? C'est mathématique.
Alors, je pense que c'est justement l'enjeu. Hein. C'est pour ça que le décalage de l'âge de la retraite, c'est un élément et c'est pas l'ensemble. Et que oui, il faut parler, je dirais, du reste du système, de la formation, des carrières, des gestions de carrière, des reconversions. Et c'est aussi pour ça que ce sujet de l'emploi des seniors, il est important et il est protéiforme. Après, je suis d'accord avec ce que vient de dire Gilbert sur les questions d'assurance chômage. C'est pas forcément pour stigmatiser les seniors eux-mêmes. Enfin, honnêtement, les ruptures conventionnelles 3 ans avant l'âge de départ à la retraite, très largement, quand c'est fait, ça arrange tout le monde. C'est-à-dire, l'entreprise est parfaitement d'accord, ça l'arrange, et tout le monde se met d'accord pour que l'assurance chômage prenne le relais. Donc c'est aussi une question d'incitation des entreprises, et puis les questions de comment en fait on gère une carrière dans la durée, comment même à 45 ans on commence à réfléchir à comment la personne va pouvoir, si elle va pouvoir, si elle doit changer de poste, si on doit la former, etc. Ça se gère très en amont au niveau de l'employeur. Et après, peut-être un dernier point, il y a aussi des choses qui sont assez peu développées en France par rapport à d'autres pays, qui sont en fait soit le cumul emploi-retraite ou la retraite progressive, enfin, le fait de s'arrêter progressivement quand on n'a plus forcément, pour certains métiers, je dirais, l'énergie de le faire à plein temps. Typiquement en France, du jour au lendemain, on s'arrête complètement. À d'autres endroits, on peut s'arrêter progressivement. Et je pense que bon, il y a peut-être pas beaucoup d'appétence du côté des salariés, mais il y a aussi pas beaucoup d'appétence du côté des entreprises, parce que ça se demande de se réorganiser, parce que passer quelqu'un à mi-temps, ça peut être compliqué, ça demande du management. Finalement, c'est tellement plus simple de dire prends 2 ans de chômage. Donc il y a quelque chose aussi quand même qui est à voir dans l'ensemble des acteurs.
Moi, je veux dire que moi, mon modèle, c'est le modèle danois. Je trouve que les Danois ont trouvé un système qui s'appelle la flexi-sécurité. Pendant 2 ans, vous avez droit à des allocations chômage, mais l'État vous aide à trouver un nouvel emploi. Et si vous refusez plus de 2 offres dans votre qualification, alors immédiatement, les allocations baissent. Moi, je trouve que c'est un système qui marche très bien. Alexandra Roulet a fait des études formidables montrant que ça vraiment, que être chômeur, devenir être au chômage n'a aucune incidence négative sur la santé, sur le stress. Et en même temps, c'est très efficace comme système. Ça permet aux gens de rebondir facilement d'un job à un autre. Moi, mon modèle, c'est vraiment la flexi-sécurité danoise. Moi, je comprends pas pourquoi on va pas vers ce système. Franchement. Et ça, c'est un système où ça veut dire, si tu refuses 2 emplois dans ton offre, très vite, tu perds tes allocations chômage. Mais au moins, on t'aide à trouver un nouvel emploi. L'État est là pour t'aider, dès le début. Donc, tout le monde est responsabilisé. Les entreprises, l'État et l'employé. Moi, je trouve que c'est un excellent système. Je vois pas pourquoi on n'essaye pas de faire pareil.
Gilbert Sette, pourquoi c'est si difficile de trouver un accord sur l'emploi des seniors ?
Parce que les intérêts sont évidemment divergents. Les syndicats peuvent avoir le sentiment de moins protéger les salariés ils reculent les âges de bénéfice, de durée d'indemnisation éventuellement plus longue, s'ils atténuent ce que j'ai appelé tout à l'heure la filière, les avantages de la filière senior, ils peuvent avoir ce sentiment-là. Et du côté du MEDEF, ce qui est cherché, d'ailleurs ça a été exprimé de façon claire sur les deux derniers mois, c'est surtout une baisse des cotisations employeurs chômage. Donc c'est l'affichage qui avait été fait par le MEDEF et par son dirigeant. Donc là, il n'y a pas la même recherche, il n'y a pas la même attente des deux côtés. Et puis, je dirais que il peut y avoir, d'une certaine façon, pour certains acteurs, l'attente que les décisions difficiles soient prises par l'État. C'est souvent le cas en France. C'est plus facile quand même quand c'est l'État qui prend les décisions difficiles et quand on peut dénoncer ensuite ces décisions difficiles.
Dans un instant, on va parler d'intelligence artificielle. Comment est-ce que la France peut rattraper son retard? Un rapport a été remis il y a quelques semaines à Emmanuel Macron. Il liste 25 propositions pour rattraper ce retard. Au terme de 600 auditions et 7000 consultations, Philippe Aguillon, vous avez été coprésident de cette initiative. On en parle en détail juste après la pause.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.